dans ce sens-là, la foi aujourd'hui, quel sens, quelle forme, vous qui voyagez à travers les groupes de méditants chrétiens, la culture, la tradition prend-elle une autre forme? Ses couleurs mènent-elles au disque blanc universel?
Disque blanc? Oh, white. White. Taking us to
all the colors, the different spiritual colors that you see when you're traveling, do they all lead to a white inner circle? Inner circle.
Yes. Well, I make a distinction between faith. Je fais une distinction entre la foi et la croyance. La foi est notre capacité pour engagement, pour relation et pour la transcendance. Dans la foi, nous transcendons l'ego, l'ego qui nous incite de quitter, d'arrêter pendant les temps difficiles. So, la foi nous amène à l'amour. La croyance, la foi est quelque chose d'universel. C'est quelque chose qui distingue l'humain. Et nous respectons la fidélité universellement. C'est quelque chose qui a une dignité. Dignité est quelque chose de sacré aussi dans l'expérience humaine, à travers toutes les cultures. Nous ne célébrons pas l'infidélité, nous célébrons la fidélité. Mais la croyance est importante, mais moins importante, mais inévitable et nécessaire. La croyance et le système des valeurs avec qui nous devons faire nos décisions importantes et d'exprimer la signification de notre vie. So, la croyance, ce n'est pas simplement la doctrine, le dogme, les définitions intellectuelles de la vérité, mais la croyance, principalement, est un système des symboles. Par exemple, l'Eucharistie. L'Eucharistie est un sacrement, c'est-à-dire un symbole, une expression d'une réalité intérieure, invisible, à travers les choses physiques et simples. Mais notre définition de l'Eucharistie a changé pendant les siècles, dans différentes manières, mais pendant les différents chrétiens. Mais la vie symbolique reste toujours. Je pense que la fidélité est quelque chose qui that doesn't change.
Qui ne change pas.
Essentiellement. Le Christ est le même toujours, hier, aujourd'hui et demain. Et le Christ est fidèle à nous. Le Christ est le sacrement de la fidélité du Créateur à la création. Fidélité continuelle. Les croyances se changent, mais nous sommes attachés au système de nos croyances, nos symboles, nos idées, nos systèmes, les structures de la puissance institutionnelle. Nous sommes très attachés parce que souvent, c'est plus facile d'identifier, d'identifier nous-mêmes, nous-mêmes avec les croyances qu'avec la, la fidélité. C'est la lettre et l'esprit, toujours. So, et c'est possible d'imaginer, et c'est, ce n'est pas seulement possible pour nous aujourd'hui, en Europe, c'est absolument nécessaire que nous imaginons une communauté de foi qui est composée des gens de différentes croyances. Et le catalyste pour cette nouvelle forme de la société, je crois, est le christianisme. Parce que nous sommes spécialement commissionnés par le Christ pour réaliser l'unité à travers toutes les différentes cultures. Nous voyons le Christ comme le centre de la réalité, historiquement, théologiquement, etc., le centre dans lequel tout peut trouver, dans leur propre expérience de la foi, avec les différentes croyances, cette unité universelle. I don't know if you understood that. But anyway.
J'espère que vous m'avez compris.
Ce serait bien aussi peut-être de la reformuler, parce que j'avais l'impression d'entendre que les différentes couleurs qui étaient évoquées pouvaient disparaître dans ce disque blanc. Et il y a peut-être une confusion sur ce qu'est l'unité. L'unité, ça ne serait pas la disparition justement de toutes ces couleurs, de cette diversité. Et je pense que le défi peut-être donné aujourd'hui, c'est pas de se fondre hein, dans la religion unique, mais au contraire, à travers toutes ces diversités, retrouver ce qu'il y a de proprement humain, proprement universel, ce qui fait que qu'un homme là dans l'Himalaya va entrer lui aussi dans le silence, et puis moi européen aussi dans ce silence, et qu'est-ce qu'il y a de commun ? Parce que finalement, dans cette expérience de méditation, de silence, on touche à l'universalité. On touche à l'universalité pas simplement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Je veux dire, c'est une expérience profondément humaine. Je veux dire qu'un homme, des hommes, dans des cultures très différentes, se taisent, se mettent en silence, à l'écoute d'une présence. Voilà, c'est peut-être ça l'unité. Mais après, son expression, qu'elle soit la plus diverse possible, c'est aussi la beauté de la nature qui est l'unité, c'est l'harmonie. Voilà, mais c'est pas l'uniformité. Donc cette cette diversité d'expression, diversité de... Je ne sais pas, là, je crois qu'il y a... Ça va ? Ça marche ? Voilà, j'ai mon accompagnateur. Mon accompagnateur. Non, il n'y en a pas, là.
It must be a sign that he's speaking the truth, so somebody is trying to interfere with it.
D'interférer avec la vérité exprimée par Philippe.
Voilà.
Une question plus personnelle, mais en même temps qui va parler, je pense, à beaucoup d'entre nous. Comment peut-on transformer la rancune par notre seule bienveillance ? Philippe nous a dit que nous participons à l'être. Oui, Mais comment pouvons-nous agir sur autrui qui ne veut ou ne peut pardonner, qui persiste à rester fermé au pardon, qui a été blessé probablement et maintenant refuse son pardon? Devons-nous seulement espérer, persévérer dans la bienveillance et à l'égard de cette personne et espérer qu'elle dépassera la rancune qu'elle a développée à l'égard des plus grands enfants de son compagnon alors qu'elle porte leur enfant qui va naître?
What is rancor?
Basically,
rancor.
Rancor.
Only by our well-being.
He didn't tell us that we participate to the
being.
But how can we act on someone else? We can or can't.
Long?
Yes. We persist in remaining closed to forgiveness.
Pardon. Elle pourrait être formulée, mais surtout, moi, j'aimerais simplement réagir sur le début de la question qui fausse peut-être toute la suite. Moi, je dirais, surtout, on n'agit pas sur les autres. Déjà. Toute la suite de la question commence à devenir un peu plus légère. Parce que si vous l'avez entendu, elle se charge, elle devient de plus en plus pesante au fur et à mesure où elle s'exprime, parce qu'au début, il y a cette volonté d'agir sur. Et je crois que comment la rancune peut se transformer en bienveillance, mais on se trompe de place. Je veux dire, si je suis enfin, la rancune de l'autre n'a pas à se transformer en bienveillance. C'est ma bienveillance. C'est ma bienveillance qui est là. C'est ma bienveillance qui accueille, qui s'ouvre à tout. C'est quand même l'exemple du Christ. Voilà, c'est. Donc là aussi, où on se trompe, où on veut changer les autres, on veut peser aussi sur les autres, on voudrait que les autres soient comme nous, mais ce n'est pas ce que le Christ nous a montré. C'est en tout cas pas du tout non plus la voie de l'ouverture, de l'accueil. Et je dirais même, c'est le contraire de la bienveillance. Vous comprenez, la bienveillance, ce n'est pas agir sur l'autre. Il y a quelque chose d'incohérent. Justement, la bienveillance, c'est accueillir l'autre tel qu'il est, comme il est, et lui offrir l'espace le plus large d'ouverture. Et c'est lui offrir finalement une occasion de changer. Donc on ne le fait pas changer, mais cet espace d'ouverture, cet accueil, va lui permettre aussi, par effet de miroir, du coup, de prendre peut-être conscience de ça et de changer. Et puis même s'il ne change pas, ma bienveillance, elle ne changera pas. Vous voyez, c'est un peu la fidélité de Dieu. Elle est inconditionnelle. Ma bienveillance est inconditionnelle.
Et je pense que nous avons besoin des exemples de du pardon pour nous inspirer. Exemple, Jésus. Une fois, j'étais dans une salle de conférence avec deux groupes de personnes qui étaient victimes de violence en nord de l'Irlande du Nord. Les protestants et les catholiques. Et ils étaient deux blocs de glacés. Terrible. Absolument isolés. Et éventuellement, les gens ont commencé de parler de simplement, sans juger, sans jugement, sans complainte, sans plainte.
Sans se plaindre.
No, without complaining. Yeah, sans se plaindre. Il décrit l'expérience, le mémoire.
Le souvenir.
Et lentement, the blocks of ice began to melt.
Les blocs de glace ont commencé à se fondre.
And what I noticed was two things, a look of surprise.
J'ai remarqué deux choses. Une surprise qui s'en est dégagée.
That the Catholic was surprised that the Protestant had the same experience.
Le catholique était surpris que le protestant avait eu la même expérience.
Et vice versa.
Et vice versa.
And the other thing I noticed,
la seconde chose que j'ai remarqué,
was relief.
Un sentiment de détente s'est installé.
They were so relieved to be able to escape from this block of ice. Voilà.
Content d'avoir pu se libérer de ce bloc de glace. Soulagé.
So it is this process of forgiveness and ce processus du pardon et de guérison unfolds slowly.
Ce processus se déploie lentement.
But it needs someone to start.
Mais il faut que quelqu'un initie le processus.
And someone to listen.
Et quelqu'un qui écoute.
I think the most powerful agent of change is listening.
L'agent transformateur le plus puissant, je crois, soit et l'écoute.
And it's very difficult to listen.
C'est très difficile au fait d'écouter.
When you have a strong opinion.
Quand on a une opinion forte. Soi-même.
Look at all our conversations.
Regardez toutes nos conversations.
So, but if we can develop this capacity to listen.
Mais si on développe cette capacité d'écoute.
To someone who is angry with us.
À l'égard de quelqu'un qui est en colère contre nous.
And to listen with humility.
Et si on écoute avec humilité.
Without responding verbally.
Sans répondre verbalement.
Until necessary.
Jusqu'à ce que ce soit nécessaire.
This takes a lot of self-control.
Ça implique beaucoup de contrôle de soi.
And it requires a deep familiarity with silence.
Et ça requiert une grande familiarité avec le silence.
Not only the silence of the tongue, but the silence of the mind.
Pas simplement le silence de la langue, mais le silence du mental.
Then, eventually, people can only speak so much.
Donc les gens ne peuvent pas parler plus que ça, jusqu'à un certain point, pas au-delà.
So eventually, they have nothing more to say.
Et au bout d'un certain temps, ils n'ont plus rien
à
dire.
No, may take 10 years.
Ça peut prendre 10 ans.
And they will repeat it over and over again.
Et parfois, ils se répètent en cours de route.
Until one day, they have nothing more to say.
Et un jour, ils auront tout dit. Ils n'ont plus rien à dire.
And then they will notice that you have been listening.
Et ensuite, ils remarquent qu'on les a écoutés.
And that's when reconciliation may happen.
Et c'est là où la réconciliation peut se passer.
But I think there are two. First is forgiveness.
Première chose, c'est le pardon.
Which is not you giving forgiveness to the other person.
Ce n'est pas nous qui pardonnons à quelqu'un d'autre.
But you healing the wound that you have suffered.
Mais nous guérissons la blessure que nous-mêmes avons souffert.
And Jesus was a master of that.
Jésus était maître dans cela.
He instantly forgave.
Il pardonnait à l'instant même. Immédiatement.
And reconciliation is a longer process.
Et la réconciliation est un processus plus long.
And I think, as Philip said, it takes two to tango.
Il faut, l'expression, c'est qu'il faut deux pour danser ensemble.
Peut-être une dernière question. secular, does it not mean off the word, because of living in the word, but being under the influence of the word? Could we use the word rooted in reality?
Oh, shall I translate it for you? Séculaire. Est-ce qu'il signifie du monde?
Donc séculier, je pense.
Séculier. You translated.
Quelqu'un m'a fait la remarque sur ma mauvaise traduction dans le sens que séculaire, c'est séculier et pas séculaire. Like alors. Alors séculaire, like. Est-ce que ça signifie du monde? Parce que vivre dans le monde, est-ce que ça veut dire vivre dans le monde ou être sous l'influence du monde? Est-ce qu'on pourrait utiliser un autre terme qui est enraciné dans la réalité?
I think, let me try.
You've got 10 minutes.
Yeah, well, if I have 5, then Philip has 5. Et en français, vous n'avez pas le mot séculaire?
Séculier.
Séculier. Et séculier signifie pas religieux? Oui. Yes, no, all right. OK. C'est difficile.
Il y a un problème, effectivement, de langue. Hein. C'est que séculier ne veut pas dire pas religieux, parce qu'il y a des instituts séculiers. C'est-à-dire, les instituts séculiers, c'est ce qui s'oppose aux réguliers, c'est-à-dire ceux qui sont soumis à une règle de vie. Donc, séculier, c'est dans le siècle, en fait. C'est avant, on disait dans le siècle. Donc, dans le siècle, dans le monde, dans la société. Voilà, mais il y a cette petite nuance-là.
So,
voilà, c'est ça.
Ouais. So, le christianisme, selon Charles Taylor, qui est l'expert de, I'll use the word, séculier, de l'âge séculier, il a écrit un grand livre sur le sujet. Vous avez entendu de Charles Taylor? Parce qu'il est canadien, biculturel, français et anglais. Il a donné one of the speakers at the seminar we had in Prague recently.
C'était un des intervenants d'un séminaire que nous avons eu récemment à Prague.
So I think he has thought very deeply and wisely about the meaning of secular.
Je crois qu'il a répondu de façon très profonde à la question de ce que c'est le séculier.
I recommend you look at his talks online.
Je vous recommande beaucoup sur le site web de regarder les discours des interventions.
In my understanding of the word secular.
Ma compréhension du mot séculier.
Secular does not mean anti-religious.
Ne veut pas dire anti-religieux.
Or non-religious.
Ou non-religieux.
It means that we have a society with a level playing field.
Ça veut dire que nous avons une société avec un terrain de jeu, pour ainsi dire, aplani.
Religious people do not have any privileges more than other.
Les gens religieux n'ont pas de privilèges par rapport aux gens non religieux.
And that is an achievement of civilization.
Et donc ça, c'est un acquis important de la civilisation.
But then you have fundamentalist secularists.
Et ensuite, on a des fondamentalistes
séculiers. Particularly in the academic world.
Dans le monde académique, souvent.
And in the media,
ou dans les médias,
who reject religion,
qui rejettent la religion,
but that's a form of prejudice.
Mais c'est une forme de préjugé.
Okay. And they will not allow or allow religion to be spoken about.
Et ils ne permettent pas qu'on parle même de religion.
So religious people should rationally oppose that.
Donc les gens religieux devraient rationnellement s'opposer à cela.
And as Christians, we should say, we invented secularism.
Et nous, comme chrétiens, on devrait dire, nous, le concept de ce qui est séculier, Nous l'avons inventé.
It took 2,000 years to realize it.
Ça nous a pris 2000 ans pour y arriver.
But it is implicit in the incarnation.
Mais c'est implicite dans l'incarnation.
And we see in the early scriptures.
Et on le voit dans les premières écritures.
The experience of the early church.
L'expérience de l'église première.
Transcended religious forms.
A transcendé les formes religieuses.
And Saint Paul says, "Why are you to the Galatians?"
Saint Paul dit aux Galates.
Why are you going back to all this religious mumbo jumbo?
Pourquoi retournez-vous vers tout ce blabla religieux?
Special feasts, special diets.
Des fêtes spéciales, des régimes alimentaires spéciaux.
Excluding one group from another group.
L'exclusion d'un groupe par rapport à un autre.
This is losing the liberty that Christ
vous
has given.
Vous avez perdu la liberté que Christ vous a donnée. Right.
So I think the Christian is essentially secular.
Donc le chrétien est essentiellement séculier.
But respects religion.
Mais respecte les religions.
And religion as a form of art.
La religion comme une forme d'art.
Or a form of music, or a form of
forme de musique,
philosophy.
Une forme de philosophie.
But not an end in itself.
Mais pas comme fin en soi.
So, this is a question of balance.
Question, bien sûr, d'équilibre.
And without this contemplative experience
at, sans cette expérience contemplative,
at the heart of religious life,
qui est au cœur de la vie religieuse,
and institutions,
et des institutions religieuses,
religion goes off course.
La religion quitte le chemin.
And it opposes itself to the secular.
Et s'oppose au séculier.
And that's the confusion, I think, in the minds of many religious
people.
Et ça,
c'est la confusion dans l'esprit de beaucoup de gens religieux.
They think the secular is an enemy.
Ils ont l'impression que le séculier est leur ennemi.
Actually, it is the best way to live.
Dans le fond, c'est la meilleure façon de vivre.
Yeah. But anyway.
Oui, c'est vrai qu'on est parti un peu sur une question de terminologie qui est, on ne sait plus si on parle de séculier ou de laïcité. En plus, la laïcité, c'est franco-français. On a une vision très, très particulière qui est propre à notre pays où, effectivement, il y a une fracture, vraiment presque sacrée. La laïcité est devenue sacrée. C'est un peu un paradoxe, mais on le vit en tout cas en France. Bon, c'est vrai que je reste assez étranger à ces problèmes. Je pense que ce sont des faux problèmes parce que la vérité, c'est quand même notre humanité. Quoi. Je veux dire, on rencontre, on est avec les autres, on se rencontre en tant qu'humain. Et il est évident que le religieux, si le religieux commence à justifier des divisions, des discriminations, eh ben alors, arrêtons tout. Vous voyez, c'est toujours ce problème hein, de la foi et de la religion. La religion qui s'instaure un peu comme système, alors que la foi aurait plutôt tendance à nous libérer, parce que c'est une relation personnelle. La foi, c'est une relation personnelle, c'est une rencontre, c'est une découverte. Donc, automatiquement, ça va me permettre aussi de rencontrer l'autre comme il est, tel qu'il est, d'où il vient. Alors que la religion, elle, par sa structure, par son système, aura tendance un peu à me retirer, puis on se replie. C'est toujours plus facile de vivre entre soi, hein, former un petit groupe entre soi. Donc, il y a toujours cette tendance au repli. Mais je crois que là non plus, pour nous, chrétiens, il ne faut pas consommer ce divorce entre foi et religion. Il faut accepter aussi de vivre cette tension, parce qu'il y a quand même une nécessité. La religion, elle nous permet aussi d'avancer dans le temps, de définir quand même certains points d'appui nécessaires. Ça nous permet aussi de nous rencontrer et d'avoir un peu le même langage, les coutumes, etc. C'est toujours nécessaire. Mais En revanche, si on ne sait pas développer cette dimension de la foi, cette dimension de la relation personnelle, donc cette dimension de la solitude, là, c'est, la religion n'a plus de sens. Vous voyez, donc c'est cette, plus qu'un équilibre, c'est une tension perpétuelle. Parce que c'est vrai que ma foi, parfois, peut se heurter aux religieux. Et même souvent. Mais souvent. Mais voilà, je crois qu'il y a une, il y a aussi une humilité parce que, parce qu'on n'est pas seul, parce qu'on est solidaire. Vous le connaissez, vous le savez, bon, l'Église, c'est pas toujours facile. Néanmoins, je reste solidaire. Voilà, je fais partie, j'avance aussi avec cette Église, avec ce qu'elle est, avec ses pesanteurs, avec ses lourdeurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte de pauvreté commune. Voilà. Et du coup, ça me renvoie aussi à moi-même. Si je la trouve parfois pauvre, raison de plus, moi, pour développer ce que j'ai à apporter. Voilà, mais jamais, jamais dans une opposition, jamais non plus dans un esprit de polémique. Voilà, donc c'est un peu l'attitude que j'ai choisie, que j'essaye de garder, parce que je vous l'avoue, pendant très longtemps, j'étais dans la polémique. J'étais tenté plus d'une fois de claquer la porte, avec de bonnes raisons. Mais quelque part, le Christ me disait non, reste avec les autres.
À votre avis, qui c'est, pour moi, c'est toujours intéressant. In your opinion, who is more, which culture is more religious, the English or the French?
À votre avis, quelle est la culture qui est la plus religieuse, l'anglaise ou la française?
What? What did you say?
Tell me what is.
Religion is, and then I'll answer you.
Well, that's very, very interesting. You see, only a very religious culture could invent the idea of laïcité.
Il y a qu'une culture très religieuse qui aurait pu inventer le concept de la laïcité.
And to be talking about it so much.
Et qui pourrait parler autant de laïcité.
So, in England.
En Angleterre.
And remember, I am half Irish.
Je suis à moitié. Rappelez-vous quand même que je suis à moitié irlandais.
So in England, they solved the problem of religion.
En Angleterre, on a résolu le problème de la religion.
Because first of all, they domesticated it.
On a domestiqué la religion.
So it was no longer dangerous.
Donc, ça ne comportait plus de danger.
And they made the Queen the head of the church.
Et la reine est devenue la chef de l'église.
But, so they have sort of tamed religion.
On a...
So the only argument of a religious kind in England is, you know, the extreme atheists, you know.
La seule question de diatribe religieuse qui reste en Angleterre concerne les athées marginaux,
who are fighting the battles of 200 years ago.
Qui mène les combats d'il y a 200 ans. Mm.
But France is much more interesting.
Mais la France est beaucoup plus intéressante.
you're much more religious.
C'est beaucoup plus religieux que nous.
Yeah. In the good sense.
Dans le bon sens du terme.
Bon, bah, merci beaucoup. Et donc on se retrouve. Oui. On se retrouve à 12h15 pour méditer. Voilà.
Okay,
pardon.